Comment est-il possible de gagner en perspective, analyser les enjeux avec rigueur et influencer le succès de l'organisation? Avant de débuter l'épisode, nous avons une annonce spéciale à vous faire. Maîtriser la pensée stratégique est l'une des compétences les plus en demande au sein des organisations. Et nous voulons aller plus loin que le podcast. Au courant des 5 prochains jours, nous lançons la prévente de notre atelier en ligne « Développer et mettre en pratique sa pensée stratégique ». Cet atelier cohorte vous permettra d'aborder des enjeux stratégiques avec confiance et vous permettra de développer et communiquer des recommandations sur des bases solides. Nous ouvrons 10 places pour une inscription anticipée à notre atelier avec une énorme réduction en échange de vos commentaires durant la phase de finalisation de l'atelier. Notre futur atelier « Développer et mettre en pratique sa pensée stratégique » est disponible pour quelques jours avec une réduction de 50%. Inscrivez-vous dès aujourd'hui au prix réduit de lancement. N'attendez pas, ces 10 places sont disponibles jusqu'au vendredi 26 avril 2024 à 18h. Inscrivez-vous en suivant le lien en description ou visitez-nous au www.inteliaconsulting.com/formation. Bienvenue à l'épisode 9 du podcast « Innovation, agilité et excellence ». Mon nom est Éric Lheureux et en compagnie de Jean-François Nantel et de Véronica Marquez, nous désirons vous offrir réflexions, conseils et perspectives afin de faire face aux perturbations du marché et de développer la croissance profitable de votre organisation. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous discutons innovation en compagnie d'Alexandre Joyce. L'innovation peut se réaliser de plusieurs façons. Elle peut se concentrer sur un produit, un service, viser une portée plus stratégique en ciblant les modèles d'affaires. Et en compagnie d'Alexandre Joyce aujourd'hui, on va explorer les différentes composantes de l'innovation. On va aller au-delà de comment innover et on va aborder le quand, le qui, le combien et surtout l'importance du temps, en plus de toucher les différents éléments comme l'incertitude et l'importance du client dans le processus de validation. Alexandre est designer stratégique et facilitateur de créativité. Il est aussi créateur et maître d'atelier Design Thinking et designer stratégique. Il est chargé de cours à l'Université de Montréal et HEC Montréal et anciennement, il a été conseiller principal en innovation au Desjardins Lab ici à Montréal. On vous présente aujourd'hui une discussion super intéressante, pratique, qui permet de mieux cerner les enjeux de l'innovation et d'en faire une compétence essentielle pour la croissance de votre organisation. Bonne entrevue. Bonjour Alexandre, merci d'être avec nous sur le podcast aujourd'hui.
Merci Eric de l'invitation.
Alexandre, pour question de commencer notre discussion, j'aimerais peut-être faire un tour d'horizon de ton parcours, comprendre un peu plus ta vision, ta perspective sur l'innovation. Clairement, par ton implication, par le travail que tu fais, t'as définitivement une touche unique par rapport au sujet. Peut-être on pourrait prendre quelques minutes, comprendre un peu d'où est-ce que tu viens, comment que ça s'est formé, cette vision-là. Puis après ça, on pourra peut-être embarquer sur certaines questions que je pense qu'on va avoir du plaisir à explorer ensemble.
Excellent. Moi, je considère que je suis le Obélix de l'innovation. Je veux pas manquer d'humilité, mais je suis tombé dans la soupe quand j'étais jeune. Alors, en sortant de ma maîtrise à 26 ans, j'ai fait un stage à l'Institut de développement de produits, qui est un organisme qui existe encore aujourd'hui, qui est à but non lucratif, qui a pour unique mission que d'enseigner, coacher, accompagner les entreprises, notamment manufacturières du Québec, dans les processus d'innovation. Alors, je suis sorti d'école, puis je suis retourné à l'école, si on veut, en quelque sorte, apprendre les meilleures pratiques en innovation. Il y a encore cette certification-là qui s'appelle le New Product Development Professional, NPDP. J'ai suivi ça en 2010 et en quelque sorte, je sens que mon baptême professionnel était exactement, en fait, c'est ça, exactement là où l'innovation se passe, là où c'est très concret, on enseignait les choses. Et puis, il y avait la notion de réseautage, donc les entreprises apprenaient les unes des autres parce que c'est bien la théorie puis les bonnes pratiques, mais comment est-ce qu'on fait ça dans le vrai monde? Comment est-ce qu'on fait pour mettre en place un stage gate, par exemple? Comment est-ce qu'on fait pour prendre en compte les besoins des clients dans la réalité des choses, là, en sortant des quatre murs de l'usine. Donc, ça a été un très grand apprentissage. Puis, ça paraît pas vrai. Ben, ça paraît sur mon CV parce que j'ai travaillé, mais on réalise pas que ça a été une école à la fois d'une expérience professionnelle. Donc, ça a été peut-être le premier bloc suite à mes études. Ensuite, j'avais le rôle de faire des diagnostics, donc aller voir les entreprises. J'ai même créé un diagnostic d'innovation dans mon parcours pour Développement économique Canada. Mm-hmm. Et arrivé à un moment donné, à force de faire des diagnostics et diagnostics, j'en faisais peut-être une quarantaine là par année, quelque chose comme ça. Ouais, c'est ça. Fait que là aujourd'hui, on est en télétravail, puis je réalise que j'ai fait de la route dans ma jeunesse là. 3 heures pour aller en Beauce pour rencontrer quelqu'un pendant 3 heures, pour refaire un 3 heures. C'est une journée de 9 heures là,
dont
6 heures d'automobile. Là. Bref, tout ça pour dire, des diagnostics c'est bien, mais est-ce que c'est pas implicite du changement, de la transformation qui va en découler? Oui, ça génère de l'information. C'est bien d'aller chercher un expert comme un consultant ou quelque chose comme ça, mais le défaut avec tous les diagnostics que j'ai faits, c'est que j'ai pas senti que les entreprises nécessairement emboîtaient le pas à la suite. Alors, mm-hmm. En 2012, j'ai décidé de faire un doctorat sur le design de modèles d'affaires, parce que j'ai un côté où est-ce que je m'intéresse, oui, à l'innovation, mais j'ai quand même aussi un côté comme quoi je pense qu'il faut changer la façon dont les entreprises génèrent de la valeur. Et donc on prend en compte, oui, l'aspect économique, mais l'aspect environnemental et social aussi, dans un développement plus durable. Et donc, mm-hmm. Pour faire ça, à chaque fois que je faisais des diagnostics, à la fin, je finissais puis je disais, ben voici le top 5 choses que vous pourriez faire. Et là, je leur disais, bon, ben la première chose que vous pourriez faire, c'est parler avec vos fournisseurs. Ça, c'est un truc que toi, je sais que tu aimes beaucoup mettre de l'avant, Eric. Donc, parler avec les fournisseurs pour savoir c'est quoi les bons coups que vos fournisseurs font. Comme ça, vous avez le droit, en quelque sorte, de pas vous les approprier, mais de les mettre en valeur aussi. Et donc, ça, c'est les choses faciles, tu sais, appeler son fournisseur. Et les choses plus difficiles, c'était de revoir son modèle d'affaires. Au lieu de vendre une chaise et une table ou de vendre un produit, je proposais de réfléchir à est-ce que ça serait possible de le mettre à l'intérieur d'un service et d'avoir un revenu récurrent. Chose mm-hmm. qui paraît si difficile. Et pourtant, des entreprises comme Hilti en Europe ont arrêté de mettre de l'emphase sur la vente de leurs produits, des scies mécaniques, des choses comme ça, et plutôt d'offrir accès sur le chantier lui-même à tous ces produits-là. Et donc, à force de tout le temps vouloir inspirer le changement de modèle d'affaires et de voir aussi que d'un point de vue environnemental, quand on change de modèle d'affaires, ça a un beaucoup plus grand impact et que ça réduit beaucoup l'empreinte écologique lorsqu'on demeure propriétaire de la matière au lieu de la reproduire et la revendre. Mm-hmm. Donc là, j'ai dit, il faut que je fasse un doctorat là-dessus. Et en plus, en 2010-2012, c'est à ce moment-là que Osterwalder sort avec le fameux Business Model Canvas, que quand j'ai vu ça, là, honnêtement, ouais. Épiphanie pour moi. Là, en tant que designer de formation qui a une capacité à sketcher, à voir visuellement les choses, le fait qu'on amène un modèle d'affaires avec, oui, c'est 9 cases, c'est 9 éléments, mais il y a quand même une notion d'art, de relation, de la façon dont on fait, on bâtit le tout, on parle même de blocs. Il y a une notion mm-hmm. de construction et d'art dans le modèle d'affaires qui, moi, m'a touché personnellement en 2010. Et c'est là que j'ai fait un doctorat en 2011-2012 sur les 3 niveaux du modèle d'affaires, les 3 dimensions, parce qu'on voyait seulement la dimension économique. Puis encore aujourd'hui, on met beaucoup d'emphase sur la dimension économique ou revenu du modèle d'affaires. Oui. Mais il y a clairement tout un... Puis ça a été ça, mon doctorat, là, ça a été de déterminer, ça serait quoi l'aspect social? C'est quoi les parties prenantes, la gouvernance, la culture? L'utilisateur, est-ce que l'utilisateur final c'est la même que le client? Ben si on prend un cas comme Mega Brands, clairement non, la mère ou le père qui achète le jouet, c'est pas la même chose que le jeune qui l'utilise. Ben oui. Donc mm-hmm. ça c'est mon cas le plus concret. Et les canaux de distribution, c'est quoi le rôle de la distribution dans le modèle d'affaires social? Et à cela en plus, il y a la notion du modèle d'affaires environnemental. Alors ça a été mon parcours, ça c'est mon deuxième bloc de parcours, je dirais c'est mon doctorat qui m'a mené à travailler ensuite au Desjardins Lab. En 2016, Desjardins qui décide de se doter de son propre laboratoire d'innovation. Il y avait 2 employés permanents lorsque je suis rentré et après ça, j'ai travaillé là pendant 4 ans, on était une trentaine à la fin, là on a même 2 équipes dont une qui a donné lieu au Coopératon, toute la notion oui. des startups mm-hmm. comme étant un vecteur pour propulser l'innovation, et aujourd'hui, ça fait 1 an que je suis à mon compte et que j'adore aider les entreprises à réfléchir, à agir en innovation, donc c'est pas mal ça.
Puis quand j'écoute ton parcours, on commence dans une dynamique qui est plus produit, je peux dire, puis on évolue vers une dynamique nettement plus globale quand on parle de modèle d'affaires. Quand je prends ce cheminement-là, Est-ce que les organisations, c'est plus facile d'adopter le regard du modèle d'affaires, ou est-ce que c'est plus facile d'innover dans cette perspective-là, ou tu as les mêmes enjeux que tu retrouvais quand on parlait d'innovation au niveau produit ou service?
Moi, ce que je peux dire par rapport aux produits, je pense qu'il y a beaucoup de techniques d'innovation qui proviennent du milieu manufacturier. Le design thinking provient du design industriel. Pourquoi il y a des racines? C'est parce que le produit, c'est tellement concret, c'est tellement externe à l'équipe qui est en train de faire la chose que ça nous force à avoir des pratiques pour le mettre en œuvre. Lorsqu'on est dans une entreprise plus de service, disons, il n'y a pas la notion du concret externe à l'équipe. On est dans offrir un service à un client, à un membre, peu importe. Et il y a moins cette relation-là physique là, avec un résultat attendu. Et donc, je pense que c'est pour ça que les techniques de design thinking, tout ça, originent du monde produit. Ceci dit, quand je suis avec des entreprises dans le monde des services, c'est plus facile de faire des changements. Par exemple, ouvrir la porte pour les gens quand ils rentrent à la succursale, c'est si simple. Dire bonjour aux gens. Donc, il y a quand même un avantage dans l'autre sens où est-ce que, selon moi, des changements peut-être de nature incrémentale, mais même des changements plus de rupture, à mon avis, est plus facile à prototyper et mettre en œuvre dans le monde des services parce qu'on n'a pas, vous en avez parlé dans vos autres podcasts, là, un investissement d'un moule ou des choses comme ça. Donc, il y a des forces et des faiblesses des deux côtés. Je veux soulever un autre élément dans le monde des services, c'est la notion du temps. Parce que lorsqu'on a un produit physique, on est obligé de savoir que ce produit-là va être dans un camion en train de se faire distribuer. Mm-hmm. Il faut qu'il vienne de l'endroit où on est en train de le produire. Il y a de la logistique dans le produit qui force une certaine planification dans le temps. Il y a un show où est-ce qu'on va vendre la prochaine paire de patins au Sport Expert. On la vend au show 2020 parce qu'on sait que en 2022, la demande va augmenter. Bref. Puis je peux parler de chez Bauer, j'ai des amis qui travaillent là qui me disent que le patin qui va sortir en 2022 existe déjà aujourd'hui en 2020. On le connaît, il a été conçu, les matériaux ont été choisis, la ligne de production, elle est déjà prête. Dans un monde de service, on ne sait pas ce qui s'en vient dans deux... On a une idée de ce qui s'en vient dans deux ans, mais ça peut changer, c'est plus malléable, il y a plus d'incertitudes. Mon rôle en tant que consultant en innovation, c'est de créer artificiellement des moments où est-ce qu'on crée des moments barrières pour forcer à être innovateur puis se donner un coup de pied dans le derrière, disons-le, pour livrer quelque chose à une certaine date parce que j'aimerais ça qu'il y ait plus de shows ou d'expos où est-ce que ça force l'entreprise à sortir de ses quatre murs et d'aller présenter quelque chose à un public ou à un partenaire et d'avoir quelque chose de concret à présenter. On n'utilise pas assez ces référents externes, ces constructions sociales comme un kiosque dans un expo. C'est une construction. On a inventé l'expo. Il n'y a rien qui nous force à participer ou pas à l'expo. Mais mon Dieu, que c'est le fun d'avoir une expo parce que tout le monde est capable de se relever les manches parce qu'on est à une semaine de l'expo puis ça se passe à ce moment-là. Alors, voilà, il faut créer des moments.
Je pense que ça touche un peu en psychologie. Il y a toujours la notion du dip en termes de plus tu as un écart dans le temps, ben la nature humaine fait en sorte que dans plein milieu de ton cheminement, cette notion de temps-là fait en sorte qu'on relâche un peu, alors que quand on comprime le temps, ben à quelque part, ça permet justement d'accélérer puis de focaliser puis de faire en sorte que la notion, ben moi j'appelle ça du 80-20, qui fait en sorte que vraiment on maximise nos efforts pour le maximum d'output et ça nous permet d'aller, dans ce cas-là, quand tu parles de show, ben ça peut te donner en même temps une belle plateforme pour aller tester, aller valider, aller explorer des nouvelles opportunités.
Et c'est un petit peu le génie du monde de l'agilité, là, puis Jean-François en parle bien dans ce podcast, mais l'importance de créer des petites boucles dans lesquelles il y a une ligne d'arrivée. C'est ça la beauté de l'agilité, c'est de faire de plus en plus des petites boucles, ne pas attendre à un show dans 6 mois, parce que comme tu viens de le dire, tu as parlé du dip, ben justement de reprendre ça mais de le recréer à plus petite échelle avec plusieurs petits moments, des petits highs et des petits lows si on veut, pour générer de plus en plus de boucles d'itération là.
Dis-moi, quand on se préparait pour notre rencontre aujourd'hui, j'avais une question qui touchait c'est comment est-ce qu'on peut mieux innover? Puis tu m'as répondu par la notion de, c'est plutôt quand il faut innover. Peux-tu explorer cette notion-là? Parce que moi, avec les gens avec qui j'interagis en entreprise, la notion de comment arrive souvent, puis je pense que c'est tout à fait normal, parce qu'on cherche tout le temps une approche, une méthode, des outils quelconques, mais la notion de quand joue un rôle est aussi important. J'aimerais ça t'entendre un peu sur ces deux variables-là.
Ouais, ben je trouve qu'on met beaucoup de discussions sur le comment est-ce qu'on va innover, les méthodologies, le design thinking, l'agilité, le stage gate, on peut toutes les nommer là. Ça c'est le comment. Puis pour moi c'est drôle parce que quand je regarde des entrepreneurs, puis je parle vraiment des startups là, eux ils adorent lever le capot de l'automobile puis jouer dans le moteur là. Tu sais, puis moi ce que je leur dis c'est que tout le temps que tu mets sur ton automobile, ton projet entrepreneurial, dis-toi que tu devrais en mettre autant sur comprendre les besoins de tes clients. Parce que c'est tellement facile de s'intéresser à ce qu'on fait, c'est notre amour. Puis nous, en tant que consultants en innovation, moi, je te lis des livres d'innovation, là, je veux dire, j'adore ça, là, je rentre là-dedans, puis c'est pas pour rien que j'aime ça jaser avec toi, parce que je sens qu'on a un capital de connaissances, puis on est capable de s'envoyer la balle, puis hey, tu connais-tu l'histoire de Christensen? Ah ouais, je l'ai lu comme tu dis. Bon, OK. Fait que nous autres, on aime ça parler du comment en innovation. C'est ça notre dada. C'est pour ça qu'on en fait des podcasts, parce qu'on en mange. Mais ça, c'est notre amour à nous. La personne devant nous, l'entreprise, le client, lui aussi, il faut qu'il y ait un certain intérêt pour la façon de faire pour innover. Mais la barrière, c'est pas le comment. C'est pas, il manque pas de moyens pour innover. Choisis-en une, même si tu t'es trompé, c'est pas grave. L'important, c'est d'avancer. Et le défi, je trouve, c'est de se donner le droit d'innover ou se donner le temps d'innover, de déterminer le quand, surtout lorsque on a des employés qui travaillent maintenant de la maison, on a des entreprises qui ont des opérations à soutenir à bout de bras avec peu de gens, et en plus, on leur demande d'innover. Est-ce que les gens, j'appelle ça opération, là, mais est-ce que les gens qui sont en train de travailler dans le quotidien, dans le day-to-day, comme on dit, qui répondent aux besoins de leur clientèle, qui sont aux premières lignes, est-ce qu'on peut s'attendre vraiment à ce qu'eux trouvent le moment pour innover? Comment est-ce qu'on fait pour avoir... Puis là, vous avez eu cette discussion-là, je me rappelle dans notre podcast, est-ce qu'il faut dédier du temps à l'extérieur, une journée par mois ou deux journées par mois ou des fins de semaine, pas des fins de semaine, des vendredis après-midi? Et moi, je suis définitivement plus dans l'idée comme quoi il faut avoir une équipe dédiée à l'innovation. Il faut qu'il y ait du monde que c'est leur raison d'être. C'est bien beau d'avoir un consultant, un coach qui vient vous enseigner, qui vient vous guider, mais si vous n'avez pas comme mission première que d'innover, que de faire de la recherche et développement, regardons encore une fois l'origine des entreprises manufacturières. Il y avait des équipes de recherche et développement qui n'étaient pas en train de répondre au téléphone. Pourquoi est-ce que les entreprises de services ne se dote pas d'une équipe de recherche et développement de la même façon qu'un manufacturier, mais je vais dire là un chiffre rond, le métier met 5% de ses efficacités de son budget et de son monde en recherche et développement. Si on a une entreprise, je vais mettre un chiffre rond là, mais de 1000 employés, j'ai de la misère à croire qu'on n'est pas capable d'aller chercher un certain pourcentage de ces employés là qui ne font que de la recherche et développement, qui ont pour objectif de prendre soin le futur de l'entreprise.
Dis-moi, si je prends cette question-là du quand, puis je te la mets dans une autre perspective, c'est-à-dire le quand on peut le mettre par rapport aux opérations courantes, puis à quel moment, ou comme on vient de parler, est-ce qu'on pourrait reporter le regard du quand aussi en fonction du cycle de vie de l'organisation? C'est-à-dire, une start-up n'innovera pas de la même façon qu'une entreprise en croissance. N'innovera pas de la même façon qu'une entreprise qui est nettement plus mature. Comment ça vient jouer par rapport justement à définir les cibles, moi ce que j'appelle les cibles d'innovation, et comment qu'on bâtit des équipes pour être capable de travailler sur ces vecteurs-là?
Bien, je trouve ça intéressant parce que ça revient sur un sujet de je crois, Véronica, là, qui parle de slack organisationnel, d'apprentissage et tout ça. Cette idée-là, comme quoi il y a des moments pour innover, je suis tout à fait d'accord. Je pense que l'entreprise doit créer son propre calendrier. Ça, c'est quelque chose que j'essaie d'amener. J'en parlais d'un show. On sait qu'il y a les vacances de Noël, il y a les vacances d'été. Je pense qu'on est des humains, puis on répond bien aux saisons. C'est inscrit dans nos gènes là de se transformer. Si tu regardes les animaux, ils changent de poils. Je veux dire, ça fait partie de qui on est en tant qu'humain que d'avoir des cycles dans l'année. On utilise l'année, pourquoi? Parce que c'est un facteur officiel, là, le soleil tourne autour de la Terre. Fait que prenons ce genre d'indicateur-là. J'espère qu'il y a personne qui l'apprend aujourd'hui, là.
prenons ces indicateurs. Si la Terre est plate ou elle est ronde.
Ouais, là. C'est ça. C'est là où est-ce que j'en ai. En tant qu'humain, on a des cycles naturels. Et je pense que les entreprises ne prennent pas assez conscience de ces cycles-là pour les inscrire dans une démarche d'innovation. Savoir que ton monde, il faut qu'ils vident leurs vacances avant le 1er mai, c'est un gros facteur, là. Je veux dire, ça change la nature du travail, le savoir qu'il y a l'été, savoir qu'il y a l'hiver, qu'il y a Noël. Moi, je prendrais en compte tous ces éléments-là, là, puis je viendrais mettre, je sais pas pour toi, là, mais le moment où est-ce que je suis le plus productif, là, c'est les 3 jours avant les vacances. Pourquoi? Parce que je veux absolument partir en vacances la tête tranquille, je veux tout régler, je veux faire tout ça. Et dans les équipes d'innovation manufacturière, quand il y a un show, quand il y a un lancement de produit, quand est-ce qu'ils prennent leurs vacances? Quand le produit a été lancé. Donc, après le grand pow-wow, où est-ce qu'on a sorti le lancement du produit, puis là, tu as eu toutes les accolades, y a-tu meilleur moment pour partir en vacances qu'à ce moment-là? C'est le temps là, de te régénérer en tant que travailleur qui a donné qui s'est donné corps et âme. Donc, je trouve que malheureusement, les entreprises, ils n'utilisent pas ces cycles-là pour réfléchir le processus d'innovation, pour l'inclure à l'intérieur des cycles ou des moments plus humains dans la vie des employés. Mm-hmm. Là.
Dis-moi, première des choses, le mot-clé qui me revient quand j'entends ce que tu dis, c'est la notion de routine. C'est-à-dire que qu'on soit dans une dynamique d'innovation, qu'on soit dans une dynamique de réalisation des différents objectifs comme stratégiques au niveau de chacun des trimestres, il y a des routines, il y a des rencontres à l'intérieur de l'entreprise, il y a des forums de communication qui permettent de stimuler le cheminement qu'on doit avoir. Maintenant, si je prends la notion que tu dis, je crois qu'il y a des équipes qui devraient être dédiées à l'innovation, évidemment, dans ce qu'on entend, et aussi, il y a le pôle opposé, il y a des gens qui disent tout le monde, l'organisation devrait être une organisation innovante. Maintenant, comment on peut orchestrer une culture, que ce soit dans un pôle ou dans l'autre, à quelque part, il y a, au-delà des pratiques d'affaires, il faut que l'organisation soit ouverte à ces forums-là, ouverte à cette dynamique-là, ouverte à explorer et se doter d'une façon d'aller chercher comme tu dis, un regard chez les clients, une perspective par rapport aux besoins, mais doit être capable de ramener ça dans ses pratiques d'affaires. Au-delà des outils, comment qu'on bâtit une culture qui ouvre et qui donne le droit à faire ça?
J'adore ta question. Alors, on rentre sur la notion du terreau fertile pour innover. Il y a un élément, j'ai souvent entendu ça, là, que tout le monde dans l'organisation doit innover. Moi, je suis d'accord avec l'esprit de ça. Tout le monde dans l'organisation doit être créatif. Tout le monde dans l'organisation doit être ouvert aux besoins clients, doit être centré sur la réponse aux besoins clients. Ça, oui. Mais c'est pas vrai que c'est le rôle de tout le monde d'innover. Si ta personne aux finances commence à innover des nouvelles lois de taxation, c'est pas ça qu'on veut là. Je veux dire, elle peut être créative puis trouver des nouvelles façons pour répondre puis peut-être économiser. Ok, mais c'est pas d'innovation ça. Le mot innovation, puis là vous l'avez défini maintes fois là, puis moi je suis dans l'équipe qui dit que l'innovation c'est quelque chose qui a un impact sur l'expérience du client externe à l'entreprise. Donc, on peut améliorer les processus, on peut être créatif. Puis d'ailleurs, j'aimerais ça qu'on utilise plus souvent le mot créatif, parce que innovation puis créativité, il y a une distinction très claire là. Moi, je veux des employés créatifs, mais je m'attends pas à ce que tous les employés fassent de l'innovation. Alors, je distingue ces deux choses-là. Pourquoi? Parce que l'innovation, ça a vraiment une portée commerciale et externe à l'entreprise. Alors qu'un bon ingénieur de processus là, qui va trouver une façon de sauver 10 000 $ parce qu'on tourne plus à gauche avec nos camions, comme l'a fait
UPS,
exactement. Je dis 10 000 $, mais des dizaines de millions de dollars. Ça, pour moi, est-ce que c'est de l'innovation? Ben là, on est dans un cas justement difficile parce que est-ce que le fait que ça arrive plus tôt aux gens ou... Mais techniquement, moi, en tant que consommateur, je ne sais pas s'il a tourné à droite ou à gauche. Là. Fait que ça n'a pas d'impact sur moi et donc, c'est de la créativité, c'est de l'amélioration continue. Donc, pour revenir à ça, donc toi, tous les employés qui ont le mandat d'innover. Et ceci étant dit, tous les employés ont le mandat d'être centrés sur les besoins du client. Et ça, c'est une grosse différence pour moi. C'est une très grande différence. Pourquoi? Parce que le résultat du travail d'un bon employé qui est aux opérations n'est pas de changer tout le système, c'est de s'assurer que le système fonctionne bien pour le client, l'utilisateur final. Et c'est pas la même chose que de dire, moi, mon rôle, c'est de changer le système puis de l'optimiser, plus que de l'optimiser, de le révolutionner puis de préparer sa prochaine génération. Et donc, pour moi, ça prend deux employés différents, un qui veille à ce que le système continue et un qui veille à ce que on est en train de préparer le prochain système, parce que celui-ci, puis on le sait aujourd'hui, là, les cycles de naissance et de mort des entreprises et des initiatives est de plus en plus accéléré. Mm-hmm. Et donc, si on n'est pas en train de veiller à se rajeunir, on est en train, comme tu disais toi l'autre fois, là, de gérer le déclin, là.
Dis-moi, quand dans l'organisation, les gens ont le devoir d'être créatifs, ont le devoir d'écouter aussi ce qui se passe dans le marché. Ça, c'est un premier devoir, je vais dire comme ça, un premier devoir de l'équipe, alors qu'il y a un autre groupe, un ensemble d'individus, je prends ceux qui sont responsables de l'innovation, selon ce que tu me dis, c'est de prendre ces informations-là, d'en faire du sens, de regarder des opportunités qui s'en déduisent, puis de pousser un peu plus loin la réflexion. C'est un peu dans ces deux tempos-là qu'on parle là, présentement.
Exact. C'est deux indicateurs de mesure complètement différents. La personne qui est dans l'organisation, qui veut améliorer, qui veut être créatif, qui veut s'assurer que le client a une expérience toujours meilleure, je l'encourage et on mesure sa performance de par la satisfaction de la clientèle. Et là, il y a tellement de Net Promoter Score ou plein de façons pour mesurer ça, là, tu sais. Par contre, la personne qui est en innovation, elle, je m'attends pas à ce qu'on soit capable de voir l'impact de ce qu'il fait sur le client, parce que ce qu'il fait, le client, il va vivre le résultat de son travail, le fruit de son travail 3 ans plus tard. Mm-hmm. Alors, je peux pas aller mesurer la personne qui travaille en innovation avec les mêmes indicateurs de performance. Et moi, ce que je dirais par rapport à ça, c'est que je ne mettrais pas un résultat sur l'absolu, mais je mettrais plutôt un résultat sur l'effort. C'est-à-dire, moi, l'équipe d'innovation, l'indicateur de performance, je veux qu'il développe 20 initiatives en 20 semaines. Je dis n'importe quoi, là.
Okay. Et,
je veux pas savoir est-ce que tu en as une qui a scoré puis qui a généré des millions. Moi, ce que je veux m'assurer, c'est que toi, tu sois en train de livrer des initiatives. Je veux que tu sois en train de faire des entrevues. Je veux que tu sois en train de soulever des roches, voir qu'est-ce qui se passe là-dedans. Et ce que je vais faire, c'est que je vais te mesurer à l'effort et non pas au résultat. Parce que le résultat, il va venir si l'effort est là. Un petit peu comme le gym. C'est drôle parce que j'avais cette discussion-là avec un collègue que j'apprécie, que je salue, Daniel de chez NB. On parlait d'entraînement et tout ça. Et puis, lui, il avait envie de se donner un objectif comme quoi il serait capable de faire la planche pendant 2 minutes. Moi, j'ai dit, moi récemment, je me suis donné comme objectif de faire l'exercice 30 minutes par jour, 6 jours sur 7. Alors, okay. Peu importe c'est quoi que je fais, moi j'ai pas un objectif, parce que en plus mes temps de marathon ou de course là sont en chute libre, là. Je vieillis puis malheureusement je m'améliore pas. Par contre,
on pourrait s'en parler. Moi c'est l'effet COVID qui fait que mon temps ralentit, mais ça c'est une autre discussion. Okay.
Et donc par contre là où je m'améliore, c'est avec des indicateurs de mesure sur le processus, sur ma capacité, l'effort, ma capacité de me présenter tous les jours puis de donner mon meilleur. Et ça c'est valorisant aussi pour moi de sentir comme quoi, ça fait 3 semaines là que j'ai pas manqué un entraînement, tous les jours je fais un petit exercice, ça me fait du bien. Moi c'est ça que, en tant qu'équipe d'innovation, je voudrais des indicateurs de performance. Évidemment, il y aurait certains indicateurs de performance sur est-ce qu'on a fait, on a livré un projet qui a été au marché, là, bien sûr. Mm-hmm. Et ça, encore une fois, ça me semble être un indicateur plus sur le processus ou l'effort et non pas sur le résultat d'avoir généré 20 millions de ventes ou de quelque chose comme ça, parce que c'est pas, c'est, on le sait que c'est une question de volume. Puis ce qu'on veut favoriser en innovation, c'est le volume.
Ben oui. Ben oui.
Puis, et donc, il faut mesurer ça.
Ce que tu mets là en face, c'est la routine sur l'habitude organisationnelle de créer, d'étudier, d'explorer. Et ultimement, comme tu dis, la notion de volume fait en sorte que tu as peut-être 2 projets qui vont être porteurs sur 100 à titre d'exemple, mais il faut que tu passes à travers tes 100 si tu veux en avoir tes 2.
Et tu parlais de terreau fertile, là, des conditions pour avoir une culture mm-hmm. d'innovation. Moi, il y a une chose, ça prend du courage pour faire de l'innovation. Sans blague, là, avoir le courage d'aller frapper à la porte de quelqu'un et dire « Hey, je te présente un prototype, qu'est-ce que tu en penses? » Puis de recevoir des commentaires « Ouf, c'est pas si bon que ça. » Ça prend du courage. Puis même, c'est pour ça qu'il y a de plus en plus des firmes externes qui jouent ce rôle-là c'est pas pour rien que des firmes de sondage, il y a des firmes, tu sais, moi, j'offre des services de co-création où est-ce que on fait des ateliers, où est-ce qu'on amène les usagers à imaginer le futur avec les entreprises. Mm-hmm. Il existe des entreprises comme, je sais pas si tu veux qu'on les nomme, mais comme ton coéquipier, qui est super pour aller faire des tests de marché. Bref, oui. ce genre d'entreprise-là qui justement enlève le côté on s'attache à nos projets, ça devient un projet personnel, on devient amouraché avec ce qu'on produit et donc ça crée une distance dans la validation comme quoi c'est une bonne idée.
Et donc, ouais, parce que tu crées ton propre biais, parce que ton propre biais de validation, tu cherches à valider tes propres idées. Tu veux protéger peut-être à certains égards aussi tout le sang, comme on dit, le sweat and tears que tu as mis dans le blood and sweat, là, je sais pas c'est lequel des deux, qu'on met dans notre projet, ce qui fait en sorte qu'on cherche à valider ça à coûte que coûte.
Exact. Fait qu'encore une fois, l'importance d'avoir des cycles, d'avoir des indicateurs de performance qui sont sur le volume et non pas sur l'élément unique. Et peut-être même de se retirer de l'équation quand ça vient à l'évaluation de ce qui est un succès ou pas. C'est pas à nous, c'est même pas à l'entreprise. Souvent, on pense que c'est à la direction de choisir. Cher employé, tu as fait un bon travail. On va aller voir le boss puis on va voir si le boss est d'accord avec ça. Et on mélange le fait que le boss, il est là pour mesurer l'effort, coacher la personne dans son développement personnel, oui, mais c'est pas techniquement l'entrepreneur, le boss qui choisit si le client est favorable ou pas au produit. Oui, il y a certaines équipes de direction qui sont avant-gardistes, qui prévoient des choses, mais j'ai envie de dire que dans, je veux dire, 80% des cas, c'est pas le patron, il sait pas plus que l'employé, c'est quoi qui va marcher sur le marché, justement. Et c'est le devoir de l'équipe d'innovation que d'aller explorer cette chose-là. Fait que je reviens à la notion de courage. Ça prend du courage en tant que patron, en tant que direction, de dire, moi, j'ai mon intuition, je sais ce que je pense qui devrait fonctionner. Ça fait 20 ans que je suis dans le domaine, j'en ai vu d'autres, peut-être. Mais selon moi, le patron, lui, son rôle, c'est pas tant de mesurer la désirabilité. Je pense que c'est vraiment le rôle de l'équipe d'innovation et peut-être même avec des gens à l'externe, d'aller valider la désirabilité. Par contre, la faisabilité, là, OK, ça c'est le rôle de la direction. Est-ce qu'on est capable d'en faire une business? Est-ce qu'on est capable de même la viabilité économique? Mm-hmm. Ça peut aller dans la cour de l'entreprise. Donc, la direction devrait être plus intéressée à aller valider la désirabilité à l'externe avec des sondages, avec de la co-création, avec des tests, avec des prototypes, tout ça. Et devrait être plus en charge de la faisabilité puis la viabilité. Et souvent, on mélange les deux. On mélange le fait qu'on pense que la direction, elle aime le projet ou elle aime pas le projet. Mm-hmm. OK, oui, bien sûr qu'il faut aimer ce qu'on fait, là, mais il faut avoir des preuves externes à soi comme quoi le projet s'en va dans la bonne direction. Puis c'est le rôle de l'innovateur, et c'est pour ça que je reviens à la notion de courage, d'aller à l'externe et d'aller chercher cette validation puis de se mettre sur la sellette puis de dire, hey, est-ce que t'aimes ça ou t'aimes pas ça? Ou, qu'est-ce que t'en penses? En fait, il faut plutôt poser la question, qu'est-ce que t'en penses de ça? Et non pas dire est-ce que t'aimes ou est-ce que t'aimes pas. Laisser la personne elle-même, de son propre chef, donner une couleur à son interprétation de la chose. Et donc, pour rendre le terreau fertile, je reviens à la direction pour instaurer une culture où est-ce que ça prend une certaine forme d'humilité en tant qu'équipe de direction de dire, c'est même pas moi qui va décider, c'est pas toi non plus en tant qu'employé. Mais ton rôle, notre rôle collectif, c'est de s'assurer que ça répond à la cible de notre clientèle. Oui. Et ça pour moi, c'est un niveau de maturité que pas toutes les entreprises ont dans la poursuite de bien satisfaire les besoins clients.
Dis-moi, quand je prends cet élément-là, puis je le mets sur une thématique que j'aime bien regarder, c'est-à-dire on peut innover pour des activités courantes, pour notre core business actuel. On peut aussi explorer différentes alternatives ou différentes possibilités pour notre organisation, pour quelque chose qui va être présent dans 18 mois, 36 mois, puis des fois même un petit peu plus longtemps. Comment est-ce qu'on peut définir, si on peut dire, un portfolio ou définir moi, ce que j'appelle l'ambition de l'innovation, c'est-à-dire on veut jouer sur quel terrain, dans quelle proportion le mix de terrain qu'on veut explorer. Comment est-ce qu'on peut définir, justement, bâtir un portfolio qui nous permet de s'occuper d'aujourd'hui, en même temps de s'occuper de qu'est-ce que demain pourrait être aussi?
Mm-hmm. Fait que je pense que tu fais référence à le Innovation Ambition Matrix là, 2012 de Harvard. Moi, t'as beaucoup parlé du produit. Moi, la ligne qui m'intéresse plus, c'est celle de à qui ou le où ou le marché ou where to play. Eux autres, ils ont écrit where to play. Moi, je suis beaucoup plus intéressé par ça parce que le produit viendra de ma meilleure compréhension du marché. Alors, si je prends le temps de dire aujourd'hui, je suis capable de satisfaire le besoin de tel profil de clientèle et que dans 3 ans, je veux non seulement ce profil-là que je faut que je continue à défendre et que je continue à chouchouter, mais je veux en plus de ça rajouter, puisque tout le monde le fait, les milléniaux. toutes les entreprises qui ont eu du succès dans le passé ont à se renouveler avec la nouvelle génération. Et oui. Ils se donnent pas les outils pour, parce que s'ils partent avec le produit puis ils disent comment est-ce que je peux diluer mon produit pour ou changer mon produit pour répondre à cette clientèle-là, au lieu de dire non, mon objectif c'est de répondre à cette clientèle-là et je vais tout faire ce qu'il faut pour découvrir les besoins de cette clientèle-là, quitte à acheter une startup ou du moins collaborer avec une startup pour voir comment elle a réussi à aller chercher cette pénétration de marché-là et de faire une spin-off ou de jouer avec ça. Ça, c'est une des façons. J'ai envie de parler d'un projet que j'ai vécu dans mon passé où est-ce que, écoute, c'était le projet, là, il fallait justement aller chercher les milléniaux. On a commencé par des recherches de terrain. On a découvert c'était quoi le besoin principal. Mm-hmm. On a développé une application qui permettait de faire ça. Et là, on a fait tous les tests dans les premiers mois. Là, on a dit, OK, c'est bon, on investit. On est passé l'équivalent d'une gate, même s'il n'y a pas de gate. Et là, on investit. On a mis un chargé de projet, puis c'était le meilleur chargé de projet que j'avais vu à date dans l'entreprise. On a bâti une équipe de 18 personnes, des développeurs, tout ça. On a mis des prototypes sur le App Store, tout ça. Et quand c'était venu le temps de faire l'atterrissage d'un premier prototype public externe, on a eu peur. On a eu peur, voulait protéger la marque, on voulait pas avoir 2 marques. Puis moi, j'étais là en train de dire, est-ce que vous connaissez Scion? Il dit, non, c'est quoi ça, Scion? Je dis, c'est une marque que Toyota a développée pour pouvoir aller chercher les jeunes. Ah, je connaissais pas ça. Je dis, c'est exactement ça que le but, c'est que il voulait créer une marque qui va chercher un autre public, puis regardez, là, c'est pas parce que Scion existe que Toyota est moins bon. Au contraire, ça vient renforcer. Puis, est-ce que vous connaissez Lexus? Ah, ben oui, je connais Lexus. Ah, ben pourquoi vous connaissez Lexus? Ben parce que ça... Bon, ben justement, on peut jouer avec une marque. Les gens n'aiment pas ça quand je dis ça, mais on peut segmenter une marque. On peut créer des nouvelles marques, justement, pour segmenter. Et là, il y a eu une décision comme... Non, nous autres, c'est une vision, c'est l'approche monolithique. Puis j'ai dit, mais comment est-ce qu'on fait pour se renouveler si on veut tout le temps avoir une seule dimension? Et malheureusement, tout ça, là, un 9 mois d'effort, des tests qui on score, là, ça va bien, là, mm-hmm. ça ramène l'imaginaire collectif de ce que ça pourrait être. Puis on a eu peur.
À la lumière de tout ça, le plus grand enjeu et le meilleur conseil que tu pourrais donner à quelqu'un qui s'intéresse à l'innovation, un entrepreneur, pas un entrepreneur, mais un entrepreneur, un dirigeant de PME ou de grande entreprise qui regarde tout ce qui se passe du côté innovation, qui se dit « Écoute, j'aimerais ça que ça soit peut-être plus qu'un buzzword pour moi. Je fais quoi? Je pars de où? »
Je pense que la première chose qu'il faut faire, là, c'est dédier du temps. C'est une question d'organisation. Si c'est important, ça va être dans tes priorités. Si c'est dans tes priorités, tu vas dégager du temps. Je trouve qu'on se laisse hameçonner par nos courriels, on se laisse hameçonner par les rencontres que les autres nous imposent et on n'est pas assez proactif avec notre temps. Si on regarde là, des gestionnaires de temps incroyables comme Elon Musk, là, qui sont capables de faire 4 entreprises en même temps, qui travaillent sur l'avion entre Los Angeles et San Francisco, peu importe. Je pense que ces gens-là... Puis je trouve que c'est en vogue, là, l'idée comme quoi la direction prend le temps de mettre des efforts en design et innovation. Steve Jobs, on sait, était le porte-étendard de l'innovation dans sa propre entreprise. Et ceci dit, c'est pas donné à tous les gestionnaires. Il faut aussi reconnaître qu'il y a certains gestionnaires qui sont des bons opérateurs et qu'il y en a d'autres qui ont ce flair ou ce désir d'aventure. Il y en a pour qui ils veulent l'incertitude. Souvent, l'entrepreneur, à la base, est capable de gérer l'incertitude. En fait, il se nourrit on parle beaucoup de risque. Moi, on aura peut-être une autre discussion sur la notion du risque en innovation, là. Puis je le dis en une phrase, mais quand on monte l'Everest, c'est pas parce qu'on a le goût du risque, c'est parce qu'on a le goût de l'aventure. Le risque, c'est
intéressant,
pas.
Ben oui.
On n'est pas drivé par le risque. On accepte que monter une montagne, il y a un risque, puis on fait tout Je parle avec David Saint-Jacques des fois que nos enfants sont dans la même classe là. On parle beaucoup de gérer le risque, puis de faire tous les tests, puis de se mettre en condition qui te permet de sentir que c'est plus un risque parce que tu es capable de l'appréhender mentalement. J'entends ça là, mais ce qui donne le goût de partir à l'aventure, c'est pas le risque, c'est la nouveauté,
c'est de
développer quelque chose, c'est l'incertitude sur est-ce qu'on va s'y rendre. Mais d'un autre côté, c'est pas la même chose, le risque et l'incertitude. L'incertitude, c'est le plaisir de la débrouillardise, de s'en sortir. Le risque, c'est la possibilité que quelque chose de négatif arrive, alors que l'incertitude, c'est le sentiment comme quoi je vais trouver une façon pour m'en sortir par débrouillardise. Alors, c'est pas la même mentalité. Bref, tout ça pour dire que l'équipe de direction, les gestionnaires, c'est pas tous les gestionnaires qui ont un désir d'aventure. Puis c'est tout à fait normal. Pourquoi? Parce qu'eux autres, leurs indicateurs de performance et eux autres, ils reçoivent des tapes dans le dos quand toutes les choses vont bien. Quand les opérations sont à bien alignées, quand ça va bien, quand on frappe nos chiffres, quand tout ça. Puis c'est pas la même mentalité. Fait que si j'étais dans une équipe de direction, je me poserais la question, est-ce que moi-même, personnellement, j'ai envie de partir à l'aventure ou au contraire, je prends une certaine fierté quand tout est bien cadré puis mon monde est heureux? Puis je suis pas en train de dire que c'est un ou l'autre, mais ce qu'on peut dire, c'est que s'il faut dédier du temps à l'aventure, est-ce que tu as envie de faire ça ou est-ce que, au contraire, ton rôle, c'est plutôt comme un Tim Cook, qui est plutôt le profil de l'opérateur, d'avoir un Jonathan Ive, je m'excuse de parler en parabole d'Apple, là, mais c'est juste que les gens comprennent tellement vite quand on utilise ces termes-là. Je suis un peu tanné moi-même de parler d'Apple parce qu'il y en a tellement d'autres. On devrait parler d'entreprises québécoises là et de comment celles-ci prennent des décisions. Fait qu'on peut parler. Un de mes cas préférés, c'est la presse parce que la presse est une de ces rares entreprises qui a su innover son modèle d'affaires deux fois dans les dernières 10 années. Je te mets au défi, Eric, de me nommer une entreprise québécoise qui a changer son modèle d'affaires en plein vol, comme on dit, c'est-à-dire de conserver il y a un livre qui s'appelle Dual Transformation, que j'apprécie beaucoup, c'est-à-dire d'être capable d'innover son produit actuel en même temps que de préparer et de mettre en œuvre le modèle d'affaires du futur. Là. Je connais pas beaucoup d'entreprises québécoises, puis s'il y en a, écrivez-nous parce que je veux entendre votre histoire. Je veux entendre comment vous avez fait pour changer votre modèle d'affaires, changer votre façon de générer de la valeur pour la clientèle. Comment vous avez fait? Parce que je le vois pas souvent. Et pourtant, j'ai passé 4 ans de mon doctorat et plus encore aujourd'hui, je conseille des entreprises sur leur modèle d'affaires. Mais est-ce qu'il y en a qui prennent vraiment une décision? Puis on revient à la notion de temps et de dédier des projets pour changer son modèle d'affaires. Pas juste l'améliorer puis le mettre au goût du jour, là. Vraiment être capable de dire, gars, je suis en train de travailler sur un projet qui est externe à notre ligne traditionnel d'opération et que je suis obligé de faire de la place pour une potentielle révolution qui vient cannibaliser. Ouais, cannibaliser nos efforts. <C'est ça. rire> cannibaliser nos revenus actuels, sachant que dans le futur, ça va être quelque chose qui va générer beaucoup plus de revenus. Il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui sont capables de faire ça.
Puis, je prends la balle au bon. Puis oui, on aura, si tu le veux bien, une autre discussion sur cette thématique-là parce que ça me passionne énormément. Et effectivement, c'est quelque chose qui est extrêmement difficile à créer en entreprise parce que on crée un deuxième momentum, un deuxième tempo, un horizon de temps qui est complètement différent. Et là, quand tu parlais de routine tantôt, bien, les routines n'évoluent pas à ce même rythme-là. Et là, à ce moment-là, il y a plein de façons de pouvoir l'adresser. Mais encore une fois, je reviens au mot-clé que tu as dit en termes de courage. Il faut prendre le courage aussi de te dire, mais peut-être qu'il faut organiser l'innovation de façon différente. Et ben, veux pas, ben, faut le juger aussi selon des paramètres différents aussi. Mais si tu veux, on garde ça pour une prochaine discussion parce que sinon, on ouvre une porte pour une autre
Parfait.
Prochaine demi-heure facile. Dis-moi, Alexandre, si les gens veulent en savoir plus, où est-ce qu'on peut te rejoindre? C'est quoi les meilleures façons?
Ben, la meilleure façon de me rejoindre, c'est par courriel, alexandre.joyce@gmail.com. J'ai un site web que j'utilise surtout pour mon rôle d'animateur, de facilitateur, là, donc docfuture.com. C'est le personnage que j'ai développé là, quand j'anime des ateliers. Ceci dit, animer des ateliers avec 20 personnes dans une salle, ça fait longtemps que j'ai pas fait ça. Je le fais maintenant en ligne et donc je continue à offrir ces services de facilitation-là en ligne. Non, directement sur LinkedIn aussi. Là, Alexandre Joyce sur LinkedIn, c'est assez facile à trouver. Merci, merci Eric.
Je mettrai les liens en note d'épisode, donc ça sera facile de pouvoir te rejoindre. Alexandre, merci énormément de ton temps. J'ai apprécié beaucoup la discussion qu'on a eue. J'espère que les gens aussi l'ont apprécié tout autant que nous, on l'a eu à pouvoir échanger sur le sujet. On se revoit bientôt.
Super.
Allez, bye-bye.
Lâche pas, Eric.
On espère que vous avez aimé cette discussion avec Alexandre Joyce. Pour consulter les notes de l'épisode, visitez le site intelliaconsulting.com/épisode 9. Aussi, n'hésitez pas à vous abonner sur le site. Nous partageons fréquemment nouvelles, articles et autres informations sur la stratégie, l'innovation ou la transformation des organisations. D'ici le prochain épisode, on vous souhaite une bonne semaine et à bientôt.